18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne du lundi au jeudi de 18h à 19h. Aujourd'hui, on écoutera un reportage de Sam sur le pot d'accueil des étudiants du CROUS à la cité universitaire de Kerguelen. Mais avant ça, on est avec Ninon Bouguet, responsable adjointe du service culturel de l'UBO, et en fin d'émission, Vincent Godot, qui est artiste et qui a fait deux fresques pour l'UBO. Bonjour Ninon.
Bonjour Maïwenn.
Alors, le service culturel de l'UBO, c'est un service qui favorise la culture pour les étudiants avec une programmation variée. C'est pas la seule chose qu'ils font, car ils accompagnent les projets des étudiants en proposant des ateliers de pratiques artistiques et culturelles qui peuvent être intégrés dans le cursus scolaire. Si vous êtes étudiant et que vous avez besoin de matériel pour un projet artistique et ou culturel, le service culturel peut également vous faire des prêts. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'était le service culturel de l'UBO ?
Ouais, très bien.
Donc toi, tu es responsable adjointe de ce service. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier ?
Oui, alors en fait, bah déjà, on est deux au service culturel. Enfin, on fait partie d'un service bien plus étendu, mais au sein du service, on est deux. Donc Hélène Lemouneau et moi-même, Hélène responsable du service. Moi, c'est très varié. En fait, je peux faire de la programmation, de la communication. Je m'occupe aussi des étudiants et étudiantes qui souhaitent s'inscrire aux ateliers. Je suis aussi les étudiants qui bénéficient du statut étudiant artiste ou étudiante artiste. Voilà, techniquement, on va aussi ouvrir des salles, on s'occupe de gérer du matériel. Enfin voilà, il y a plein de choses. On fait aussi de l'affichage sur les campus. C'est extrêmement varié.
Donc lundi, on a eu Gaëlle du service culturel du CROUS, attention, qui est venue nous parler, nous en parler dans l'émission. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ce qui vous différencie ?
Oui, alors premièrement, je pense que c'est aussi au niveau du public. Nous, on a un public un peu plus restreint que le CROUS. En fait, notre champ d'action, c'est les étudiants et étudiantes de l'UBO et des écoles partenaires à Brest, Quimper et Morlaix, contrairement au CROUS qui, lui, fait des propositions en fait, pour tous les étudiants du Finistère.
On peut parler de la programmation parce qu'il se passe plein de choses avec le service culturel de l'UBO. Déjà, demain, il y a la boum de rentrée dans la salle du CROUS. Avec un haut programme du jus de pomme, des crêpes et de la musique bretonne revisitée, il y aura à l'affiche Mode Cosmique, Iskis, Maëla Aganouk et Nawab. Vous avez déjà fait des soirées avec de la musique bretonne ?
Oui, ça doit être la troisième boom bretonne qu'on propose.
Et ça marche bien en général ?
Ouais, ça marche très bien. En fait, la première, elle est née de... c'est grâce au statut étudiant-artiste. En fait, en recevant les dossiers, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants de l'UBO qui avaient une pratique en musique traditionnelle. Et donc, on a décidé de les mettre à l'affiche et de les programmer pour une soirée qu'on a appelée Boom Bretonne, sous-titrée Fesnoz.
Donc, vous mettez à la vente des artistes locaux et ouais. La culture locale,
ouais.
Pour vous, c'est important de valoriser cette culture ?
Oui, c'est sûr qu'on est en Bretagne. Alors Brest, c'est un peu différent aussi de la Bretagne par rapport à la culture bretonne. Mais oui, c'est important. On travaille aussi pour cette soirée-là avec l'association CETU, qui est une asso étudiante de culture bretonne, et qui montrait notamment les pas aux étudiants internationaux. C'est un bon moyen de découvrir la culture bretonne aussi quand on est étudiant, qu'on vient d'une autre région française ou d'une autre région du monde ou d'Europe.
Bah carrément, c'est un bon moyen de découvrir le monde qui nous entoure. Comment vous avez rencontré les groupes présents ? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous issus de l'UBO.
Non, alors pour cette soirée-là, c'est plus en faisant des recherches. Alors ce qu'on aime bien, généralement pour nos concerts, nos booms, c'est la mixité, enfin la parité. Donc on avait trouvé assez facilement la tête d'affiche qui est Mode Cosmique. Et après, on a eu plus de mal. En fait, on a contacté beaucoup de groupes féminins, 100% féminins et jeunes. C'était aussi la contrainte. Et on a eu beaucoup de difficultés en fait, à trouver un groupe disponible ce soir-là, puisque c'est un jeudi soir, donc ce n'est pas forcément évident de partir de son travail un jeudi après-midi pour faire des balances à Brest. Et fort heureusement, bah, on a eu une réponse positive du groupe Iskis. Alors, c'est pas 100% féminin, parce qu'il y a un homme mais sur les quatre. Mais on est contente. Et aussi, bah, le groupe Maïla et Anouk, en fait, qui vont faire du Corna Discount, qui, elles, sont déjà venues à Brest, puisqu'elles ont fait la release party de Fleuve cet automne à la Carène.
C'est quoi, du Corna Discount ?
Corna Discount, c'est chant contre chant. Alors, chant, chanté. Hein. Et en gros... c'est une chanteuse qui va répondre à une autre chanteuse. Et traditionnellement, en fait, c'est bon, avec micro, ou ça peut être aussi acoustique, enfin, je veux dire, sans micro, mais c'est surtout sans instrument.
Ok, d'accord, ouais. Je ne savais pas du tout.
Et aussi, ce dont on est ravis pour cette soirée-là, c'est qu'on va accueillir le groupe Noab. Et dans le groupe Noab, donc, il y a Thomas Peyser, qui est étudiant artiste à l'UBO et à l'ISB. Et un comparse à lui qui s'appelle Anatole Demny et qui est un ancien étudiant de l'université.
Trop bien, comme ça vous avez un peu la continuité aussi de ce qui se passe dans la vie des, bah, des étudiants, ouais, artistes.
Ouais.
Trop bien. Est-ce qu'il y a souvent des booms comme ça ?
On essaie d'en faire deux par an. Une boom bretonne, bon alors ça dépend. Et une boom où là on va faire plutôt appel à un chorégraphe ou à des danseurs professionnels pour mettre en mouvement aussi les étudiants qui sont là. L'année dernière, par exemple, on avait fait une boom avec le SUAPS et une compagnie brestoise, donc avec Bélène et Benoît. Et c'était un chouette moment. On a aussi fait du karaoké. On avait aussi invité les étudiants et étudiantes qui sont dans la grande chorale à venir chanter. Et donc ils avaient fait des morceaux avec le Karaoké Social Club ce soir-là.
C'est vrai que vous avez une programmation hyper variée. D'ailleurs, vous ne proposez pas que des concerts, parce qu'il y a aussi, la nuit au ciné, c'est ouais. Ça, qui est mise en place dans la salle du Clous. Donc, installez-vous confortablement sous des plaids et sur des transats. La prochaine soirée, c'est le 26 novembre, et on pourra regarder Amélie Poulain. C'est gratuit, mais c'est réservé aux étudiants. Comment ça vous est venu, cette idée de faire des soirées, des nuits de ciné ?
Avant, en fait, on avait un ciné-club à l'université qui fonctionnait avec un groupe de passionnés. C'était très très bien, en fait, enfin, de qualité, j'entends. Donc c'était des soirées qui avaient lieu tous les mois, qui étaient entièrement organisées par un groupe d'étudiants. La seule difficulté, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on a eu de moins en moins de public. Et donc, on s'est dit avec Hélène, en discutant avec des étudiants, en fait, que certains, par exemple, se faisaient eux-mêmes des vraies nuits au cinéma. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on aurait adoré faire avec des cycles. En fait, par exemple, ils se faisaient le cycle Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux pendant toute la nuit, enfin, début de soirée et toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait adoré faire. La seule difficulté, c'est que, ben, en fait, on est assez couche-tôt avec Hélène, donc tenir sur la nuit, c'était compliqué. Et on s'est dit, ben, on garde le nom, la nuit au cinéma, mais on propose de le faire plutôt à 18h30 à la sortie des cours. La première nuit au cinéma, c'était avec Miyazaki. Ça a été un succès, c'était très chouette, une très belle soirée. Et on essaie toujours de combiner projection de films et à côté. Donc par exemple, il y a des quiz, des choses à gagner, on offre à manger aussi, toujours dans la thématique des films qui sont projetés. Il y a des petits jeux, enfin voilà. Donc on passe souvent une bonne soirée. Donc là, cette soirée-là, on l'a travaillée avec des étudiants qui sont en licence art. On sondait un petit peu le public parce que comme c'est la troisième édition, on ne savait plus trop quoi choisir comme film. Et on s'est rendu compte que Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, en fait, était un film culte pour la nouvelle génération d'étudiants et étudiantes. Et donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée de cette soirée.
Ok, trop bien. Ça donne trop envie, mais du coup, c'est réservé aux étudiants. Ouais. Et il faut venir tôt, parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'était que la fois où il y avait Miyazaki, il y a eu vraiment plein de monde qui ne pouvait pas rentrer tant il y avait du succès.
Oui, donc. Sachant qu'on invite les étudiants et étudiantes à se déguiser aussi à chaque fois. Et donc là, on aimerait bien faire le plus grand rassemblement d'Amélie Poulain de France, ou un autre personnage du film. Donc si vous venez déguisé, il ne faut pas hésiter à être vraiment à l'heure, parce que sinon, c'est possible que les portes se ferment.
Et il y a souvent des soirées ciné ?
Alors nous, de notre côté, on n'en fait qu'une, parce que ça nous demande beaucoup de travail. Là, par exemple, il va y avoir aussi un studio photo dans l'univers d'Amélie Poulain. Il va y avoir à manger en lien aussi avec le film, tout un quiz. Donc c'est vrai qu'on a du mal à en faire deux par an.
Ok, donc il y en a une.
Ouais, en novembre, généralement.
C'est ça.
Et il ne faut pas hésiter à venir avec son plaid. Certains nous ont demandé aussi s'ils pouvaient venir avec leur chat. Ils peuvent venir avec leur chat, mais le plaid est vraiment conseillé.
Les deux soirées du coup qu'on vient d'aborder, elles sont réservées aux étudiants. En revanche, il y en a une qui est ouverte à tous, dans la limite des places dispo, c'est le concert de Noël. Donc c'est l'orchestre symphonique de l'UBO qui est à l'affiche. Pourquoi est-ce que cette soirée particulièrement, elle est ouverte à tous ?
Déjà parce que ça se passe au sein de l'Amphiguilchaire, au niveau de la fac de lettres, donc la jauge est plus importante qu'à la salle du Clous. On double en fait les sièges. Et aussi puisque l'orchestre symphonique n'est pas composé que d'étudiants, étudiantes ou personnel UBO, en fait, c'est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de musiciens brestois ou aussi du Sud Finistère, ça, c'est assez étendu et donc ben, souvent leur famille vient à cette période-là les écouter.
Du coup, justement, moi, je me demandais par rapport à l'Amphiguilchaire, il peut accueillir à peu près combien de personnes ?
Je crois qu'on est sur une jauge de un peu plus de 400 personnes.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Et où est-ce qu'on peut voir, et où et quand on peut voir l'orchestre symphonique de l'UBO en représentation, à part ça ?
Ils jouent un peu partout. En fin d'année, en juin, ils vont souvent à Ouessant. On peut les retrouver aussi à Plougastel, souvent. Ils vont parfois jouer à Camaret aussi. En fait, ils ont un site internet avec toutes les dates qui doivent déjà être calées sur l'année. Ils circulent pas mal, ouais.
Bah, n'hésitez pas à aller voir du coup sur leur site internet si vous voulez vous tenir au courant des actualités. Et moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on parle du statut étudiant-artiste. Parce que du coup, vous proposez un statut qui permet aux étudiants d'avoir un emploi du temps aménagé par rapport à leurs cours, un emploi du temps aménagé qui leur permettrait d'avoir une pratique artistique quand même. Donc, depuis combien de temps il existe ce statut ?
Il existe depuis longtemps, une dizaine d'années environ. Alors moi, je suis là que depuis 7 ans et il existait déjà avant, donc c'est une dizaine d'années.
Ok, trop bien.
Et c'est effectivement un statut qui permet de concilier pratique artistique et études, et qui permet surtout de ne pas faire un choix entre l'un ou l'autre. Alors l'aménagement d'emploi du temps, ça c'est une possibilité, mais il faut aussi le voir avec ses enseignants et sa scolarité, ça ne le garantit pas forcément. Mais en tout cas, c'est la possibilité de changer de TD. Nous, on est là aussi pour accompagner les étudiants sur la réalisation de leurs dossiers, les demandes de subventions, les questions administratives, souvent c'est quelque chose qui revient, les droits d'auteur, la communication. Donc on vient en renfort aussi de ce point de vue-là, pour aider les étudiants à se professionnaliser artistiquement.
Et comment on fait si on est étudiant et qu'on a envie d'avoir le statut d'étudiant artiste ?
Alors là, il va falloir passer en deuxième session, puisqu'en fait, la première session a eu lieu hier. La deuxième session aura lieu en janvier et donc il suffit d'aller sur notre site internet, on a un onglet statut étudiant artiste, de remplir le dossier et de nous le renvoyer, sachant qu'on peut aussi conseiller s'il y a des questions sur au moment de remplir le formulaire, on est là aussi pour accompagner les étudiants qui le souhaitent.
Merci beaucoup. Avant de continuer notre discussion sur le service culturel de l'UBO et de parler à Vincent Godot qui a fait deux fresques pour l'UBO, on va faire une petite pause musicale.
Bon, du coup, c'est Sondi à la technique, donc c'est moi qui vais faire les annonces musicales. Maintenant, on va écouter une chanson qui a été réalisée lors d'un atelier du service culturel de l'UBO intitulé « Chansons carton ». Donc en fait, le principe, c'était d'écrire, composer et enregistrer des chansons express par 12 étudiantes et étudiants de l'UBO en compagnie du compositeur et multi-instrumentiste John Trapp et du romancier, scénariste et musicien brestois Arnaud Le Gouéfleck. Du coup, l'album, il s'appelle, excusez-moi, Les absents sont toujours morts, et la chanson s'appelle Where and When de Lorelai, Nathanaël, Isel et Maël. Bonne écoute sur Radio U.
I'm thinking so. ne vois-tu pas le monde ? Dehors, la tempête gronde. Tu as l'air si paisible. Le reste semble invisible.
Tu viens de quelle planète ?
C'était Where and When des étudiants Lorelai, Nathanaël, Isel et Maël. Donc, on est toujours avec Ninon Gouguet et on va appeler Vincent Godot, celui qui a fait la fresque, les deux fresques pour l'UBO et le petit, enfin les visuels du flyer 2025-2026.
Tout à fait. Ouais, je vous entends.
Bonjour Vincent, ça va ?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Donc,
je suis de retour à Strasbourg après la réalisation.
Le trajet s'est bien passé ?
Oui, oui.
Trop bien. Donc, Vincent Godot, il est illustrateur. Il a illustré le guide de l'UBO. Il est aussi artiste. Il jongle avec les formes géométriques, coloré et réalisé à l'ordinateur, le dessin à la main et les constructions en bois ou en papier. Illustrateur pour la presse et la communication culturelle, auteur de livres pour enfants ou d'applis pour enfants, il travaille également en volume. Il réalise des livres pop-up, décors de spectacles, de sculptures ou des installations grand format. Donc Vincent, comment vous avez trouvé l'inspiration pour ces deux fresques et les visuels du guide de l'UBO ?
Bon, je me suis appuyé un peu sur le contexte, à la fois donc pour le guide, comme ça... Ça propose des activités culturelles en lien avec des salles de théâtre, de cinéma, de concerts et tout ça. J'ai essayé de représenter un petit peu toutes ces activités culturelles là. Donc on peut voir dans l'image que j'ai fait pour la couverture des personnes qui dansent, une personne qui prend des photos aussi pour parler un petit peu du côté plus expo ou pratique des arts visuels. Il y a une chanteuse, un personnage qui joue d'un instrument, tout ça. Et puis j'ai mélangé avec quelques formes plus d'inspiration bretonne. Enfin, ça joue un petit peu aussi avec ça. Il y a un phare breton et des poissons, dont les... Et puis il y avait aussi des jeux graphiques, un petit peu les touches d'un piano noir et blanche qui répondent visuellement au rayon noir et blanche du phare breton. Donc voilà, c'est un petit mélange de Brest, de culture et puis de mon univers visuel plus personnel. Puis pour la fresque, comme ça a pris place en fac de médecine, pareil, j'ai fait un peu quelque chose à la croisée et mes préoccupations artistiques. Moi, je dessine quand même assez souvent des bonhommes, des personnages et tout ça. Et là, comme on était en médecine, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la représentation du corps humain et explorer un peu ça sous différentes formes. Donc j'ai proposé un panel de dessins avec une dizaine de représentations de corps avec des formes géométriques et colorées, parfois presque à la limite de l'abstraction. On pourrait croire à des empilements de rectangles, de ronds et tout ça, mais si on les regarde tous ensemble, on se rend compte que c'est toujours des silhouettes humaines avec une tête et deux jambes. Et chacune propose une vision un petit peu différente du corps humain et ça s'inspire un peu de certaines spécialités médicales. Donc moi, j'ai un peu listé ça dans ma tête en me disant il y a le côté psychologique, le côté on va dire articulation, kiné, la circulation sanguine, plus les petites choses comme les microbes, les bactéries, tout ça. Enfin, donc, j'avais ça en tête quand j'ai fait mes dessins. Et puis après, je le digère et je le transforme en forme très simple et tout ça. Du coup, on peut aussi ne pas voir tout ça et simplement voir des bonhommes avec des formes colorées étonnantes. Et justement, j'aime bien un peu laisser aussi libre interprétation à chacun. Mais voilà, moi j'ai ce point de départ un peu du lieu ou du contexte de la commande pour quand je commence mes dessins, quoi.
Alors si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous étiez amené à travailler ensemble, le service culturel de l'UBO et Vincent Godot. Et moi je me demandais, pour Ninon, comment vous avez découvert Vincent Godot?
Oui, donc c'était la première fois. Avec Hélène, l'année dernière, à peu près en octobre-novembre, on a commencé à faire des recherches pour trouver un nouvel illustrateur ou une nouvelle illustratrice, parce qu'on aime bien mettre à l'honneur un artiste pour la couverture de notre brochure et après tirer le fil un peu et faire en sorte que cette personne revienne sur la saison. Et c'est tout simplement en regardant les couvertures du 1 qu'on a découvert le travail de Vincent. Enfin, on a aimé son dessin et après on est allé sur son compte Instagram, son site internet, et on s'est dit que c'était un univers qui nous plaisait, qui était très coloré et on s'est dit que ça pourrait plaire aussi aux étudiantes et étudiants et à la communauté universitaire. On aime bien aussi quitter Brest et chercher des artistes qui viennent d'un peu plus loin. Et donc là, on est à l'autre bout de la France pour faire venir Vincent.
C'est ça, qui est situé à Strasbourg. Vincent, c'était la première fois que vous faisiez des fresques murales?
Alors, j'avais déjà fait des fresques murales, mais à l'intérieur de centres d'art ou de lieux d'exposition. Peindre mes images en moyen format, on va dire, j'avais déjà eu l'occasion. Mais par contre, là, c'était en extérieur, enfin, plus ou moins, parce que c'est un patio dans le bâtiment, mais c'était exposé à l'environnement extérieur et un grand format, parce que le mur fait mettre de long. Donc voilà, ça, c'était quand même un peu nouveau. Et à la fois, c'est quasiment deux ou trois fois plus grand que les dessins muraux que j'avais eu l'occasion de faire. Et puis aussi, dans le côté technique, le fait que ce soit exposé à la pluie, au soleil, tout ça, c'est quelques contraintes qui, au moment de la réalisation, sont à prendre en compte. Mais disons que même au niveau du dessin, le fait de faire des très grands formats comme ça... On dessine pas la même chose qu'en petit dans un livre ou un document de communication. Moi, j'ai plutôt tendance justement à dessiner des choses d'autant plus simples qu'elles sont grandes, parce que je dirais qu'il y a presque moins besoin de détails et que des idées très très simples, quand elles font 3 mètres de haut par 1 mètre de large, elles sont déjà visuellement très impactantes. Et ça peut suffire. Donc, comme moi, j'aime bien simplifier au maximum mon dessin. Ça m'a aussi encouragé à cette.
Et ça a été facile de s'adapter à ce nouveau support monumental?
Facile, ça dépend au niveau... Il y avait un peu de nouveauté technique, là, à la fois pour tracer l'image sur le mur... Jusqu'ici, moi, quand j'avais fait des plus petits dessins sur des murs, j'avais soit utilisé un vidéoprojecteur ou des choses comme ça pour me faciliter un peu la chose, parce que je fais toujours une esquisse quand même assez aboutie avant de me mettre à dessiner. Je n'invente pas mon image directement sur le mur. J'ai un projet assez précis et puis je le recopie, on va dire. Et là, comme c'était très grand, et que c'était avec la lumière du jour, je pouvais pas faire ça, donc j'ai dû tracer avec fil à plomb, des règles et tout ça. C'est que pendant plusieurs jours, ça m'a presque pris la moitié du temps du projet. Et puis, la pluie et l'humidité, tout ça se sont invités aussi à la réalisation, et ça m'a un petit peu compliqué la tâche. Mais bon, c'est un peu le jeu de faire des choses dehors. Et en même temps, bon, je suis aussi assez content de faire des projets comme ça, qui, comme c'est dans un lieu public, ça va être par pas mal de gens qui sont pas forcément des gens qui cherchent à avoir des créations artistiques comme ça, comme quand on est en galerie d'art ou en centre d'art. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'amener la création comme ça dans l'espace public. Et puis, ça me change aussi du travail de bureau qui peut être très différent. Enfin, moi, quand je travaille sur un livre ou sur une commande d'illustration, je suis plusieurs jours à mon bureau à dessiner des toutes petites choses sur format A4 et à pas croiser grand monde parce que j'ai besoin de concentration dans mon atelier. Bon, bah là, c'est très différent. Je suis au milieu des gens et puis dehors. Et, enfin, donc, moi, j'aime bien aussi varier.
Ça vous a pris combien de temps d'imaginer, de construire ce projet?
Alors ça, j'aurais du mal à dire, mais pas forcément plusieurs jours, surtout que donc là c'était une carte blanche, j'étais libre, donc ça c'est très appréciable. Après, comme c'est pas souvent que j'ai l'occasion de faire un dessin sur un grand mur comme ça, j'ai pas pris la première idée venue, j'ai fait pas mal de... Enfin, j'avais assez vite, je pense, l'idée de... Enfin, je me suis imposé un peu cette thématique du corps humain, là, mais j'ai fait pas mal de croquis, de recherches, je pense pendant plusieurs jours, avant d'essayer de composer une image avec toutes ces différentes recherches. Et puis après, j'ai une deuxième étape où je mets en couleur et puis je peaufine un petit peu tout ça. Donc, bon, je pense que j'ai facilement dû y passer 1 ou 2 semaines à simplement concevoir l'image. Et puis, à peu près autant de temps à la réaliser sur place. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce projet ?
Bah, à la fois de l'image que j'ai conçue, je sens que mon dessin évolue un petit peu aussi au fil des projets. Et comme je disais avant, là, je me suis un petit peu permis de dessiner quelque chose de très simple, qui raconte pas forcément une idée narrative, mais un petit peu plus... dans le sens des images, là, il y a un peu plus mystérieux, avec des formes très simples, très géométriques et tout ça, donc j'étais content d'être allé vers ça, avec un peu une façon de dessiner plutôt un petit peu différente de ce que je faisais jusque-là. Et puis aussi, dans la réalisation, il y a un côté assez artisanal, avec du coup, j'ai peint des formes assez précises, sans utiliser de pochoir ou de scotch, mais en faisant tout comme ça, à main levée, et du coup, il faut être assez concentré pour faire des beaux tracés, des belles formes, et quand on y arrive, c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà, c'est aussi l'autre côté sympa du projet.
Bah, merci beaucoup, Vincent Godot. Vous pouvez aller voir son travail sur son Insta Vincent Godot ou sur son site internet. Aussi, vous pouvez retrouver toutes les infos pratico-pratiques du service culturel de l'UBO sur leur site également. Merci Ninon et merci Vincent d'être venu avec nous ce soir.
Merci.
De rien. Au revoir.
Au revoir.
Du coup, comme on le disait, l'UBO organise donc la soirée Nuit au ciné, donc à l'honneur soit d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, donc ou d'un courant cinématographique, un personnage. Donc le mercredi 26 novembre, à partir de 18h à la salle du Clou, ce sera Nuit au ciné avec le personnage de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain. Donc le film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001, évoque la vie d'une jeune introvertie travaillant dans un bar à Paris qui trouve par un bel hasard un album de photos d'identité de plusieurs personnes anonymes. Avide de curiosité, elle décide d'enquêter sur ce mystérieux objet et surtout sur le propriétaire de cet objet. Quintessence de la candeur, de la vie simple, on va écouter une des chansons de la bande originale réalisée par le talentueux compositeur brestois Yann Tiersen. Voici la valse d'Amélie. Donc la valse d'Amélie pourrait faire penser à une phrase de l'écrivain briochin Louis Guillou, « Je n'ai de morale que l'amour de la vie ». Bonne écoute sur Radio U.
C'était la valse d'Amélie de Yann Tiersen. Et maintenant, on va écouter un reportage de Sam sur le pot d'accueil des étudiants du Crous.
La semaine dernière, c'était le pot d'accueil des étudiants du Crous, juste devant Radio. Par chance, il n'y avait pas besoin de sortir des locaux pour voir qu'un bon nombre d'étudiants étaient présents. J'ai pu rencontrer des salariés de Brest Métropole qui étaient là pour sensibiliser au tri des déchets.
Alors, en fin de compte, pour parler du déchet en général, alors tout ce qui est recyclable, et éventuellement, alors je vous montre rapidement, on a un petit seau comme ça, tout simplement. Alors ça veut dire on a mis des cashbacks, on appelle ça des cashbacks. Ce que vous allez mettre dedans, c'est uniquement les restes de repas. D'accord ? Donc le but, c'est de faire du biogaz et de l'électricité avec. Donc on donne à chaque étudiant qui le souhaite, bien entendu, hein, y a pas d'obligation, de prendre un petit seau pour mettre le reste de ses repas, tout simplement.
Vous êtes là pour responsabiliser un peu les étudiants.
Oui, simplement, de toute façon, vous êtes la jeunesse, hein, vous êtes l'avenir, donc plus vous serez informés sur le déchet en général, et mieux ce sera pour tout le monde.
La FEV était également sur place pour recruter des étudiants bénévoles.
Du coup, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?
Parce qu'on propose du bénévolat aux étudiants et étudiantes qui auraient envie de s'engager cette année sur le territoire de Brest. Et l'idée, c'est qu'ils puissent devenir mentors d'un enfant, d'un jeune, pour l'année universitaire, être un peu la grande sœur, le grand frère.
Et comment on fait pour s'inscrire ?
Et bien en fait, vous pouvez venir nous voir, on va être souvent sur la fac, etc. Sinon, on a aussi un Instagram à FEV Brest. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on propose des temps d'accueil où on expose vraiment comment ça se passe, la mission de bénévolat, comment nous on accompagne aussi les bénévoles, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter.
Et ça se passe sur toute l'année ?
Oui, l'idée c'est de s'engager sur une année universitaire de créer du lien avec le jeune en fait tout au long de l'année. Donc plus on démarre tôt, plus c'est chouette.
Et que serait l'accueil des étudiants sans ces mêmes étudiants ? On va leur passer le micro tout de suite.
Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?
Pour voir un peu avec qui je suis un peu voisin entre grandes parenthèses et puis je sais pas, découvrir du monde, j'aime beaucoup le contact humain. Donc voilà, parler, discuter, voir un peu ce qui se propose, notamment il y a des livres qui ont l'air intéressants, il y a des assos qui sont là qui peuvent être intéressantes aussi, je m'intéresse un peu à tout. Puis surtout il y a un petit groupe que je vois là-bas et j'ai hâte d'entendre tout ça. Donc voilà, j'ai suivi ma curiosité on va dire.
Pourquoi je suis ici ? Parce qu'on m'avait dit que peut-être il y aurait des pizzas gratuites. Je me suis dit, Moi qui suis un grand mangeur, je me dis en plus que je vais pouvoir rencontrer du monde, comme retrouver un ami de lycée, je vais pouvoir peut-être sympathiser, voir ce qu'on me propose en même temps que de passer un bon moment. Et là, je viens de retrouver une initiative qui est intéressante, c'est le Crous qui donne des livres gratuitement. C'est vrai que c'est une bonne initiative pour donner l'envie aux jeunes de lire et surtout de découvrir des auteurs de la grande culture, dirais mondiale, des auteurs français, européens et aussi mondiaux. Parce que par exemple, le premier livre, Un étranger à Londres, c'est par une autrice américano-somalienne. Donc ça permet de voir des champs de la culture dans le monde, dans certains pays. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout ça gratuitement. Alors là, chapeau!
Merci à Sam. Merci à vous d'avoir écouté C'est vous qui le dites. Vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site radio-u.org. À demain pour C'est vous qui le dites.